Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mardi 28 mai 2024. Au Cameroun, une attaque visant un bar a fait 2 morts et 11 blessés en région anglophone. Au Burundi, début du procès en appel de l'ex-premier ministre Alain Guillaume Bignoni, condamné à perpétuité. Les Sud-Africains sont appelés aux urnes demain dans le cadre d'élections législatives cruciales.
Tous les sondages d'opinion suggèrent qu'il y a de très fortes chances que l'ANC tombe en dessous de 50% des voix et qu'il soit contraint de former une sorte de coalition.
Les enjeux de ce scrutin à suivre dans la partie magazine. L'armée israélienne a pénétré aujourd'hui pour la première fois dans le centre de Rafah. Au procès de Donald Trump, la défense plaide l'acquittement. Les procureurs prennent le relais avant de laisser le soin aux 12 jurés de décider du sort de l'ancien président américain. Ne manquez pas notre page pro ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Cameroun, 2 personnes ont été tuées et 11 grièvement blessées dans l'attaque menée par un groupe armé samedi soir dans un bar de Bamenda, plus grande ville du nord-ouest anglophone, région en proie à un conflit séparatiste. C'est ce qu'ont indiqué les autorités locales dans un communiqué publié hier. Les détails avec Nani Talani.
Selon le communiqué, ces civils ont trouvé la mort dans l'attaque d'un bar par un groupe armé terroriste à moto qui a lancé 2 grenades explosives sur la population avant de se volatiliser. Les blessés ont été transférés à l'hôpital régional de Bamenda. Les autorités du département de la Mizam, où se situe la ville de Bamenda, condamnent également un acte barbare sur des civils. Elles appellent la population à collaborer avec l'administration et les forces de sécurité et de défense pour traquer les coupables et les traduire en justice. Depuis lundi, un arrêté préfectoral interdit de 18h30 à 6h30 local, jusqu'à nouvel ordre, l'utilisation des 2 roues dans le centre de Bamenda, secoué par un conflit meurtrier qui oppose, depuis fin 2016, des groupes armés indépendantistes aux forces de sécurité dans les 2 régions anglophones du pays. Les 2 camps sont régulièrement accusés de crimes contre les civils par l'ONU et les ONG internationales qui estiment qu'au moins 6 000 civils ont déjà péri par le conflit.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les combats entre rébellions du M23 et forces gouvernementales ont provoqué lundi la mort d'une dizaine de civils et de nouveaux déplacements de population. Les fronts sud proches de Goma étaient calmes ce mardi, mais d'intenses combats se poursuivaient à environ 70 km au nord. Le M23 s'est emparé lundi de la localité de Kiagala, à 40 km par la route du sud de Kanyabung-Yanga, selon un responsable de la société civile de cette commune. Tchad, Amnesty International dénonce la détention au secret de proche d'un opposant, Yaya Diallo, tué par l'armée récemment. 20 de membres de la famille de Yaya Diallo sont concernés, a assuré ce mardi Amnesty International. Monsieur Diallo, cousin de Mahamat Déby, est pressenti comme son plus dangereux rival pour la présidentielle, avait été tué le 28 février dernier par des militaires de la garde présidentielle dans l'assaut du siège de son parti, Socialiste sans frontières. Assassiné selon l'opposition, d'une balle à bout portant dans la tête selon le parti sans frontières, ce qu'avait nié le pouvoir militaire invoquant la nécessité d'appréhender Monsieur Diallo, suspecté d'avoir mené une attaque contre les services de renseignement et tenté de faire libérer un responsable de son parti arrêté. Au Burundi, le procès en appel de l'ancien premier ministre Alain Guillaume Bignoni s'est ouvert hier dans la capitale Gitega, poursuivi pour des velléités de coup d'État. Il a été condamné en décembre à une peine de prison à perpétuité. Les précisions de Yacouba Ouedraogo.
Le général Bignoni a encore une fois nié catégoriquement toute tentative de renverser le pouvoir, a expliqué une source qui a assisté à l'audience tenue dans la prison centrale de Gitega, où est détenu l'ancien premier ministre. Alain Guillaume Bignoni a invoqué le manque de preuves matérielles et l'absence d'éléments légaux pour étayer l'accusation. Le bureau du procureur avait fait appel dans cette affaire, estimant que la peine n'avait pas été assez lourde, surtout en termes d'amende et de confiscation des biens. Le général Alain Guillaume Bignoni, devenu premier ministre en juin 2020, a été démis de ses fonctions en septembre 2022, quelques jours après que le président Évariste Ndayishimiye a dénoncé des velléités de coup d'État. Il avait ensuite été arrêté en avril 2023. La Cour suprême l'avait jugé coupable d'avoir voulu renverser le gouvernement, menacer la vie du président, d'enrichissement illégal et de déstabilisation de l'économie. Il avait plaidé non coupable dans tous les chefs d'accusation.
Le nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a ouvert aujourd'hui à Diamna Dio, près de Dakar, une concertation nationale visant à réformer et moderniser la justice du pays, un de ses chantiers prioritaires. Le président Faye a insisté sur le besoin de mener une profonde refondation du système judiciaire, invoquant les récents troubles qui ont secoué le pays. Ces assises regroupent des professionnels du droit, des professeurs d'université, des membres de l'opposition et de la société civile. Les conclusions issues des concertations devrait ensuite lui être remise le 4 juin. Le Parlement kenyan a ouvert ce mardi une série de réunions publiques sur des accusations de violation des droits humains et d'abus de pouvoir contre les militaires britanniques positionnés dans le centre du pays depuis des décennies. La présence de l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya est au cœur de nombreuses controverses allant jusqu'à des accusations de viol ou de meurtre.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hors du continent, l'armée israélienne a de nouveau pilonné aujourd'hui Rafah et pénétré pour la première fois dans le centre de la ville du sud de la bande de Gaza, malgré les appels de la communauté internationale à cesser son offensive. La défense civile de Gaza a annoncé qu'une frappe israélienne a tué 21 personnes dans un camp de déplacés dans l'ouest de Rafah. Davantage avec Alexandrine Olognon.
Des témoins ont fait état de frappes aériennes et de tirs d'artillerie nourris dans l'ouest de cette ville frontalière avec l'Égypte. Une source de sécurité a confirmé avoir vu des chars israéliens dans le centre de la ville. Des familles palestiniennes paniquées fuyaient ce mardi le quartier de Tal al-Sultan, à nouveau bombardé après une frappe dimanche soir qui a fait 45 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir ce mardi en urgence à la demande de l'Algérie après cette frappe qui a suscité l'indignation internationale. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a pour sa part regretté un accident tragique après la frappe de dimanche. Les États-Unis se sont dit bouleversés et ont appelé leur allié israélien à prendre toutes les précautions pour protéger les civils. L'ONU a demandé une enquête complète et transparente sur ce bombardement. Environ 1 million de personnes, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, ont fui Rafah en 3 semaines, pour la plupart des déplacés qui étaient venus chercher refuge dans cette ville.
Et l'armée israélienne a affirmé aujourd'hui que ses munitions utilisées dimanche pour la frappe sur Rafah dans le sud de la bande de Gaza ne pouvaient avoir à elles seules provoqué l'incendie ayant fait ce jour, selon les autorités locales, 45 morts dans un camp de déplacés. De son côté, l'Afrique du Sud a condamné ce mardi la nouvelle attaque de Sahel, aujourd'hui même à Rafah, qualifiée de déplorable par Pretoria. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, est revenu au tribunal de New York pour les plaidoiries finales de son procès. La défense et l'accusation doivent convaincre les 12 jurés appelés à trancher sur une affaire concernant une actrice de film X, Nathalie Barge.
Selon l'accusation, l'ancien président américain s'est rendu coupable de falsification de documents comptables de l'organisation Trump pour cacher un paiement de 130 000 dollars à l'actrice de film X Stormy Daniels afin d'éviter un scandale à la fin de sa campagne présidentielle en 2016. Les procureurs assimilent ce paiement à une dépense de campagne dissimulée. Ils estiment qu'il a corrompu l'élection en achetant le silence de l'actrice sur une relation sexuelle qu'elle affirme avoir eue avec lui en 2006. Donald Trump, qui a renoncé à témoigner au procès, dit être victime de poursuites politiques. Sa défense met en cause la crédibilité de l'ex-homme de confiance de Trump, Michael Cohen, qui a dit avoir versé l'argent sur ordre de son patron pour s'assurer que l'histoire n'affecterait pas les chances de Donald Trump de devenir président des États-Unis. Selon l'accusation, il s'était ensuite fait rembourser à l'aide de fausses factures et d'entrées maquillées en frais juridiques dans les comptes de l'organisation Trump, d'où les poursuites pour falsification comptable. Les jurés devront seulement répondre à la question de savoir si Donald Trump a ordonné de falsifier des documents comptables pour cacher le paiement. S'il est jugé coupable, il peut faire appel. Si les jurés ne s'accordent pas, il faudra refaire le procès. Dans tous les cas, le candidat républicain inculpé dans d'autres affaires pourra se présenter à la présidentielle le 5 novembre.
Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
En Afrique du Sud, les récoltes de maïs devraient baisser de 19% en moins, soit 13 millions de tonnes pour la saison 2023-2024, contre 16 millions de tonnes récoltées la saison précédente, a déclaré ce mardi le comité des estimations des récoltes du gouvernement. La récolte devrait se composer de 6,34 millions de tonnes de maïs blanc destinées à la consommation humaine et de 6,97 millions de tonnes de maïs jaune utilisées principalement dans l'alimentation animale. En Ouganda, les exportations de café ont augmenté de 4,8% en avril par rapport à la même période de l'an dernier, atteignant 391 000 sacs de 60 kilos grâce à une bonne récolte dans la région centrale, a déclaré l'autorité de développement du café. Au cours des 12 derniers mois, l'Ouganda a gagné 1 milliard de dollars grâce à ses exportations de café, dont Kampala est le plus grand exportateur d'Afrique, suivi par l'Éthiopie. Pour terminer, le ministère du pétrole du Soudan du Sud affirme qu'un oléoduc soudanais rompu lors de combats de février a été réparé et pourrait être remis en service dans les deux prochaines semaines. Le léoduc Petrodar, mis en place par un consortium des sociétés chinoises et malaisiennes, achemine normalement environ 100 000 barils par jour de pétrole brut du Soudan du Sud sur plus de 1500 kilomètres vers un terminal situé sur la côte soudanaise de la mer Rouge.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La tension monte d'un cran entre le président de la Fédération camerounaise de football et le nouveau sélectionneur.
Oui, c'était la première fois que le président de la FECAFOOT, Samuel Tofis, et le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, Marc Brice, nommé par le ministère des Sports début avril sans aucune consultation de la fédération, se rencontraient ce mardi. Le technicien belge avait été invité par Eto à une séance de travail alors que le Cameroun se prépare pour les éliminatoires de la Coupe du Monde le mois prochain. Mais plusieurs des collaborateurs de Brice, nommés par le ministère des Sports, se sont vus refuser l'entrée dans le bâtiment de la FECAFOOT. Une vidéo circulant sur les médias sociaux montre Eto d'abord expulser un fonctionnaire du ministère des Sports qui voulait assister à la réunion. Le patron de la FECAFOOT a ensuite eu un échange enflammé avec Marc Brice, qui a quitté les lieux immédiatement. Le Cameroun affronte le Cap vers le 8 juin à Yaoundé et trois jours plus tard, l'Angola, lors des matchs des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. En novembre dernier, sous la direction de Rigobert Song, dont le contrat n'a pas été renouvelé, les Lions Indomptables ont battu l'île Maurice à domicile et fait match nul en Libye lors de leurs deux premiers matchs dans le groupe D.
Les oppositions des demi-finales de la Basketball Africa League saison 4 sont connues.
Les Rivers Hoopers du Nigeria feront face aux Libyens d'Al Ahly et les Cape Town Tigers d'Afrique du Sud vont jouer contre les Angolais de Petro de Luanda. Les derniers matchs des quarts de finale se sont en effet disputés hier avec leur lot de surprises. Les Sénégalais de l'AS Douane peuvent nourrir des regrets car ils tenaient bien leur rencontre jusqu'aux dernières minutes du quatrième quart-temps avant de s'incliner 66 à 65 devant les Angolais de Petro. Toujours hier, un peu plus tôt, les Tunisiens de l'US Monastir ont plié les Chines 88-92 devant les Nigériens de Rivers Hoopers. Pas de match aujourd'hui, les demi-finales ont lieu demain, mercredi.
Ici en NBA, Boston fonce en finale.
Favoris de la série, les Celtics ont balayé les Indiana Pacers 4-0, battus cette fois-ci 105-102 hier à Indianapolis et se sont qualifiés pour la finale NBA. Jaylen Brown de Boston, qui a de nouveau brillé avec 29 points, a été élu meilleur joueur de la finale de conférence Est, où il aura marqué en moyenne 31,25 points. La franchise de Massachusetts, aux 17 titres records co-détenus avec les Los Angeles Lakers, va pouvoir disputer la 23e finale de sa riche histoire. Boston a de grandes chances d'y affronter à partir du 6 juin les Dallas Mavericks, qui mènent 3-0 en finale de conférence Ouest contre les Minnesota Timberwolves. Avant le match 4 ce soir, Boston retrouve la finale après sa défaite en 2022 contre les Golden State Warriors de Stephen Curry. Les Celtics n'ont plus soulevé le trophée depuis 2008 et l'époque du trio Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, l'interpellation de Boubacar Traoré, proche du premier ministre Choguel Koukala Maïga, après la publication d'un document critique de la junte, marque une escalade des tensions politiques et pourrait sceller la rupture entre M. Maïga et les colonels au pouvoir, selon certains observateurs. Pour en parler, Eric Manirakiza, adjoint à Bamako, le journaliste Sekou Tangara.
Il faudrait voir peut-être deux conséquences. La première, de mon point de vue, c'est qu'il y a une volonté des militaires de s'assumer. Aussi bien les récriminations qui pourraient venir de la droite ou de la gauche, les militaires ne sont plus à même d'accepter et d'entendre ces récriminations-là, que ce soit de la part de voix discordantes du régime de la transition ou bien même de voix qui sont partisanes de la transition. Les récriminations, les reproches d'où qu'ils viennent ne sont plus acceptés. Donc il y a une volonté de s'assumer. Premier point. Le deuxième point en termes de conséquences, c'est la fin de ce qui pourrait être convenu comme une idylle entre les forces du changement, puisqu'après le coup d'État qui a mis fin au régime de Ibrahim Boubacar Keïta, on a parlé de forces conjointes, les forces du changement, d'un côté le CNSP, les cinq colonels, et de l'autre côté le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Les deux se sont mis ensemble et aujourd'hui, avec cette interpellation au cabinet du Premier ministre, au nez et à la barbe du chef du gouvernement, de l'ancien président du comité stratégique du M5-RFP, on peut dire que cette idylle, cet amour entre les forces du changement est derrière nous.
Quels pourraient être les impacts sur la liberté d'expression et les droits de l'homme au Mali suite à cette interpellation?
Bon, l'impact, il est là. Il faut reconnaître un régime d'exception dès lors que la Constitution elle est mise entre parenthèses et dès lors que les activités politiques ou d'ordre politique sont suspendues. On était même surpris qu'il y ait ce mémorandum du M5-RFP, sachant bien même que l'ancien président du comité stratégique du M5, l'actuel Premier ministre, a accepté de signer le décret qui mettait fin aux activités des partis politiques. Donc l'impact, il est là. Je pense qu'on est dans la confirmation du régime d'exception. Ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Ils veulent ils veulent s'assumer. Ils tiennent à ce régime comme la prunelle de leurs yeux. Ils s'en cachent plus. Et certains politiques, des civils, à un moment, s'étaient accommodés de cette situation. Et ce n'est pas parce qu'ils sont interpellés aujourd'hui qu'il faut se poser des questions. On a l'impression que les militaires veulent s'assumer. Ils veulent aller jusqu'au bout de leur logique, de leur raisonnement. Et mettant tout le monde d'accord qu'on est vraiment dans un régime d'exception, un régime de transition.
Sekou Tangara, journaliste à Bamako.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
En Guinée, les restrictions visant certains médias sont toujours d'actualité. Selon le gouvernement, les radios et télévisions dont les agréments ont été retirés sont coupables de mauvaises pratiques du métier, alors que pour les médias concernés, les autorités ne sont pas favorables aux critiques. On fait le point avec notre correspondant, Zakaria Camara.
Quatre radios et deux chaînes de télévision sont interdites d'émettre. La décision du ministre guinéen de l'information et de la communication est diversement appréciée dans les rues de Conakry.
Très très content. C'est pas moi seul, il y a beaucoup de gens. Ils ne considèrent pas les gens. Moi je suis très content de Doumbouya. Mais pourquoi en Guinée ici, on fait n'importe comment? Il y a les radios qui sont là, qui parlent n'importe comment.
Combien de Guinéens aujourd'hui qui étaient connectés à l'espace Duma FM et FM? Donc il devrait vraiment penser à ça. Ça, c'est pas la solution de la transition, ça, au fait. Là où nous sommes maintenant, là, il y a eu au moins 70% aujourd'hui des Guinéens qui ne sont pas à l'info, qui n'est pas maintenant à l'abri à l'information.
Lundi, le Premier ministre Amadou Riba s'est prononcé sur la situation de la presse guinéenne. La liberté de la presse ne veut pas dire une licence pour insulter, a-t-il déclaré devant les conseils nationaux à Conakry. Mais les propos des autorités guinéennes sont jugés inacceptables par les patrons de presse. Aboubacar Kondé, directeur de l'information du groupe Joma.
Nous sommes en administration. Avant que le gouvernement ne nous accuse, je pense que le régulateur qui est la HAC, la Haute Autorité de la Communication, c'est l'institution la mieux indiquée pour nous dire qu'effectivement, nous avons enregistré des manquements, mais jusqu'à date...
Pour le directeur adjoint des programmes de FIM FM, le gouvernement ne veut pas entendre des voix qui critiquent sa gestion. Ibrahim Assouri, Lincoln Souma.
Il faut simplement rappeler que les autorités de la transition ne veulent plus que les journalistes le rappellent à leur engagement. Ça leur fait mal quand on parle du respect du chronogramme de la transition. Ça leur fait mal quand on parle du retour à l'ordre constitutionnel. Ça leur fait mal quand on invoque les cas de mort dans les manifestations qui sont restées impunies, contrairement à l'engagement du président qui a dit que Guinéens devrait mourir pour la politique.
Dans un communiqué, le gouvernement guinéen, par la voix de son porte-parole, accuse certains médias de violation abusive de l'article 6 du cahier de charge. Des accusations rejetées par le syndicat de la presse professionnelle de Guinée, qui accuse à son tour les autorités d'avoir violé la loi sur le retrait des agréments. Zakaria Camara, pour VO Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Ségiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Le Togo fait face à une crise énergétique sans précédent, occasionnant de fréquentes coupures d'électricité, une situation qui impacte fortement les opérateurs économiques et laisse beaucoup de Togolais dans le désarroi. Le point avec notre correspondante, Amène Assignon à Lomé.
Agbagnon Kofivi est imprimeur. Cet après-midi, il peut se réjouir de travailler sur son ordinateur. En effet, depuis quelques semaines, impossible pour lui et son équipe d'honorer les commandes, du moins le peu qu'il a en ces temps de délestage récurrent. En effet, les coupures intempestives du courant ont contraint l'entreprise à revoir son rythme de travail. Et cela n'est pas sans conséquence sur son chiffre d'affaires.
On peut comptabiliser peut-être à 150-200 000, mais jusqu'à présent, avec le délestage, on n'arrive même pas à travailler. Nous sommes peut-être dans les 15-20 000. Ça empiète vraiment sur nos activités.
Des heures de coupure d'électricité souvent sans préavis du fournisseur national. Le quotidien des Togolais devient pénible. Une situation qui porte surtout un coup dur aux activités économiques dans le pays. Spécialisé dans les fruits bio, ce restaurant par exemple, où Juliette Sogadi est serveuse, est à l'épreuve de la conservation de ses produits à cause du délestage.
Depuis plus d'une semaine maintenant, nous avions connu des coupures incessantes et intempestives qui ont provoqué d'énormes dégâts dans nos produits où nos fruits sont pourris.
Même son de cloche pour les produits congelés, comme les poissons, explique Richard Maoussi, tenancier de frigo.
Avec la chaleur causée par le délestage, nous avons du mal à conserver nos produits. Quand le courant est coupé pendant une longue durée, nos poissons pourrissent. Pour réduire les pertes, nous avons réduit notre approvisionnement.
Les autorités togolaises expliquent ce déficit énergétique par les perturbations enregistrées dans l'approvisionnement en gaz naturel au plan régional. Face à la crise, la CET, la compagnie d'énergie électrique du Togo, chargée de la fourniture du courant, se veut néanmoins optimiste. Dans un communiqué, elle a indiqué mettre tout en œuvre pour un retour progressif à la normale. En attendant, un plan de rationnement de l'électricité a été mis en place à Lomé, la capitale. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Les Sud-Africains s'apprêtent à se rendre aux urnes ce mercredi 29 mai. Le Congrès national africain gouverne l'Afrique du Sud depuis 1994, lorsque Nelson Mandela a été élu président après la fin de l'apartheid. Le parti connu pour sa lutte contre l'apartheid fait face au mécontentement de certains citoyens qui estiment que l'ANC n'a pas tenu ses promesses. Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, nous propose ce reportage avec le récit de Jacques Aristide.
Dans les rues de Johannesburg, des affiches de candidats sont placardées un peu partout. L'électeur Thabo Molobi veut la continuité et votera pour l'ANC, dit-il à la VOA. Un autre, Karame Zidine, confie qu'il en a assez et qu'il votera pour l'Alliance démocratique ou DIE.
30 ans de démocratie, c'est probablement 30 ans de politique. Il faudra encore 30 ans pour mettre en œuvre ces politiques et les voir porter leurs fruits.
L'Alliance démocratique, parce qu'elle est axée sur le changement. Assez, c'est assez. Nous en avons assez des promesses creuses.
Dans une vidéo de campagne, le chef de l'ANC, Cyril Ramaphosa, affirme avoir réalisé des progrès pour répondre aux besoins des Sud-Africains.
Nous travaillons pour l'Afrique du Sud en investissant dans notre population afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte.
Daryl Glazer, professeur agrégé à l'université de Witwatersrand, affirme qu'il s'agira des élections les plus serrées depuis le début de l'ère de la démocratie inclusive en Afrique du Sud en 1994.
Tous les sondages d'opinion suggèrent qu'il y a de très fortes chances que l'ANC tombe en dessous de 50% des voix et qu'il soit contraint de former une sorte de coalition.
Glazer et d'autres analystes indiquent à la VOA que les allégations de corruption, de scandale et de désunion au sein de l'ANC ont aidé l'opposition à gagner du terrain, notamment le Parti des combattants de la liberté économique, ou EFF, dirigé par Julius Malema, un ancien leader de l'aile jeune de l'ANC, et le nouveau mouvement Umkhonto Wesizwe, pour lequel l'ancien président Jacob Zuma a fait campagne.
Well, Jacob Zuma's party, Umkhonto Wesizwe, or MK.
Le parti de Jacob Zuma a été une surprise. Il a été créé assez tard, dans la période précédant les élections, et a tout chamboulé. L'EFF séduit certainement un certain public et sa popularité augmente. D'une certaine manière, MK est autant une menace pour l'EFF que l'ANC, sinon plus, car il attire une partie des mécontents.
As it is to the ANC, if not more so, because it's capturing some of the discontented.
9 jours avant les élections, le plus haut tribunal sud-africain a statué que Zuma n'était pas éligible aux législatives en raison d'une condamnation pénale antérieure. La décision est intervenue 2 jours après que Zuma a déclaré à des milliers de partisans lors de rassemblements à Soweto que son parti MK contribuerait notamment à réduire le chômage s'il gagnait. Le taux de chômage en Afrique du Sud a atteint 32% d'après la Banque mondiale, ce qui en fait le problème numéro un pour de nombreux électeurs.
Je pense que notre plus grand défi en tant que pays est notre taux de chômage, qui est l'un des plus forts au monde.
Je voterai pour Action SA. Je pense que ce parti a obtenu ce que nous voulons dans le pays. En ce moment, nous avons un problème de criminalité et il n'y a pas d'emploi.
Pour moi, les défis sont la pauvreté et le chômage. Le manque d'entretien des infrastructures est un autre problème urgent.
Près de la moitié des 62 millions d'habitants du pays se sont inscrits sur les listes électorales, déclare Thabo Masemola de la Commission électorale indépendante. Tout est fait, prédit-il, pour gérer le vote efficacement, comme cela a été fait par le passé.
La liste électorale certifiée s'élève actuellement à 27,7 millions d'électeurs et nous utilisons la liste électorale comme base pour préparer et planifier les élections. Ainsi, tous les documents pertinents sont en place.
Il ajoute que la commission électorale a accrédité 160 organisations, tant nationales qu'internationales, pour observer les élections et garantir leur transparence.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.